Mesdames et messieurs, bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir, chez nous pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accès à Internet, comment faciliter l'accès à Internet en République démocratique du Congo. Nous avons pour invité Arsène Tungali, expert sur des questions de gouvernance internationale d'Internet. Il intervient aujourd'hui depuis la ville de Goma. Arsène Tungali, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, l'accès à Internet en RDC, appelez-nous au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Marcel Ngumbo assure la coordination et la réalisation de cette émission. Polydor Bansunga, la mise en onde. Au micro, c'est jeudi Daniel Kachama, sous la supervision de Tina Salama. Ça s'est passé près de chez vous. Une rubrique qui vous donne aussi l'opportunité de raconter ce qui se passe dans votre milieu de vie. Composez le 081 890 63 94. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Capi vibre au rythme du Festival Amani du vendredi 15 au dimanche 17 février en direct du collège Mwanga de Goma.
Vendredi 15 février, Parole aux auditeurs sera diffusée en direct du site du festival à 12h05. Urban Scène à partir de 16h30, heure de Goma.
Samedi 16 février, retrouvez Urban Scène aux couleurs du Festival Amani à 12h10 et au Capi Métissage de 14h à 16h, heure de Kinshasa.
Enfin, le dimanche 17 février, au Capi Métissage clôture la série des directs au collège Mwanga de Goma de 13h à 15h, heure de Kinshasa.
Radio Capi en direct du Festival Amani depuis Goma, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Bienvenue dans au Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous parlons aujourd'hui de l'accès à Internet en République démocratique du Congo. Vous savez, l'Internet est devenu une technologie indispensable au développement économique, social et culturel, d'après les experts. En RDC, l'accès à cet outil est encore faible. Des millions de Congolais n'ont pas les moyens de s'offrir les services Internet à cause du coût élevé. Par ailleurs, les coupures d'Internet pour des raisons politiques ne favorisent pas le développement de l'économie numérique. Alors que faire pour faciliter l'accès à Internet à plusieurs Congolais, au même titre que l'accès à l'eau ou à l'électricité? Eh bien, on en parle dans cette émission avec Arsène Tungali, l'expert sur des questions des gouvernances internationales d'Internet. Arsène Tungali, encore une fois, bonjour.
Bonjour, je dis Kachama. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, la première question est de savoir pourquoi bon nombre des Congolais aujourd'hui n'ont pas toujours accès à Internet.
Alors, je dis ça, c'est une question intéressante et j'aurais bien voulu personnellement avoir la réelle ou bien la bonne réponse à cette question. Mais il y a beaucoup de défis qui ne permettent pas à beaucoup d'utilisateurs congolais d'avoir accès à Internet. Déjà que les statistiques donnent le taux de pénétration à moins de 20%, donc sur le près de 80 millions de Congolais, seulement moins de 20 ont accès à Internet. Et parmi les défis, c'est vrai, il y a des questions qui sont purement économiques ou bien financières, parce que avant que Internet ne soit propagé sur toute l'étendue de la République, il faut une certaine infrastructure qui soit déployée dans tous les coins et recoins de la RDC, ce qui n'est pas encore le cas jusque-là. Les quatre ou trois principaux opérateurs télécoms sur toute la République, ils ne sont pas en mesure de couvrir toutes les zones. Et peut-être certaines zones ne sont pas couvertes, peut-être pour des questions sécuritaires, mais beaucoup plus, je crois que c'est des questions liées au budget. Et donc, d'un côté, on a le fait qu'il y a un manque d'infrastructures adéquates qui permettent à toute la population congolaise de pouvoir se connecter à Internet. Mais des deux, il y a un problème d'accès parce qu'on n'accède pas à Internet gratuitement dans ce coin, dans ce pays. Et donc, il faut que la population soit en mesure de pouvoir avoir de l'argent afin de pouvoir utiliser les services de télécom. Ça, c'est des deux. Mmh. Mais de trois également, il y a un autre défi, même pour les quelques personnes qui ont réussi à avoir accès à Internet. Il y a des fois où le gouvernement, pour des raisons politiques, se décide de mettre fin ou bien de couper Internet. Et donc, pendant plusieurs jours, comme cela a été le cas plusieurs fois dans ce pays depuis 2015, des gens, quoi qu'ils aient été en mesure de pouvoir payer la connexion Internet, mais ne sont pas en mesure de se connecter. Donc, je vois rapidement trois défis qu'on peut mentionner.
Voilà, donc ce sont là les défis qui font que les gens n'ont pas accès à Internet. Et pourtant, à un certain moment, on nous a parlé de la fibre optique dans ce pays. Lorsqu'il y aura la fibre optique, ça va améliorer l'accès à Internet. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose.
Voilà, la fibre optique, c'est vrai, c'est l'une de ces infrastructures dont j'ai parlé. C'est vrai, lorsque la fibre optique sera déployée sur toute l'étendue de la République, cela favorisera, c'est vrai, un bon débit, une bonne connectivité à Internet. Mais encore, il faudra que le revenu moyen de la population leur permette, tu vois, de pouvoir payer ou bien de pouvoir être à mesure de se procurer de cette connexion. Parce qu'il ne suffit pas que les entreprises déploient la fibre optique, mais il faut que la population soit également en mesure de pouvoir s'y connecter. Et donc il y a beaucoup de défis, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails pourquoi la fibre optique n'est pas encore déployée. On a vu, il y a eu beaucoup de projets financés par la Banque mondiale, mais on ne voit pas les résultats sur le terrain. Et ça, c'est peut-être des questions politiques de la part des dirigeants qui n'ont pas bien fait leur travail apparemment.
Voilà. Et il y a eu également bon nombre de personnes ont déploré la coupure d'Internet dernièrement avec pour des raisons politiques. Et d'après les informations reçues, cela causerait beaucoup de dommages, surtout aux opérateurs qui sont dans le numérique.
Exactement. En fait, les statistiques, du moins, ce sont des estimations économiques à chaque fois qu'il y a Internet qui est coupé un seul jour dans un différent pays. Il y a un outil, netblocks.org, qui a été développé par certains collaborateurs, qui permet de mesurer l'impact économique d'une seule journée de coupure d'Internet. Et malheureusement, peut-être que les autorités de ce pays ne sont pas au courant de toutes les pertes qui sont occasionnées, non seulement du côté du télécom. Les télécoms, c'est vrai, c'est des entreprises commerciales, mais il y a la pauvre population qui dépense beaucoup de francs congolais afin de pouvoir acheter un paquet de données, comme on les appelle, des mégas ou des gigabytes sur leurs appareils ou sur leurs cellulaires. Et lorsque Internet est coupé, c'est toutes ces personnes qui ne sont pas en mesure de se reconnecter, en pourtant ayant déjà payé pour ça. Mais également, c'est toutes ces entreprises qui fonctionnent essentiellement sur Internet. Il y a désormais de plus en plus de développement des entreprises e-commerce, donc des gens qui vendent ou bien qui font le commerce en ligne. C'est des gens qui essentiellement ne fonctionnent que lorsque Internet est là, parce que les gens doivent être en mesure de se connecter sur leur site web afin de pouvoir passer leurs commandes ou faire leurs achats. Et imaginez lorsqu'Internet est coupé pour une semaine, pour deux semaines ou même voire pour trois semaines. Donc c'est des entreprises qui sont en train de perdre en termes de beaucoup de centaines de dollars. Mais d'un côté, les entreprises télécoms aussi, peut-être on pourra en parler aujourd'hui, qui prétendent dire que c'est un ordre qu'ils ont reçu du gouvernement et donc ils doivent nécessairement, ils ne peuvent pas dire non à chaque fois que le gouvernement se décide de pouvoir couper Internet. Mais eux aussi, de leur côté, c'est des millions de dollars qu'ils sont en train de perdre. Et imaginez cet étudiant qui devrait faire sa recherche ou bien communiquer avec son professeur qui est à l'étranger, qui doit lui envoyer le mémoire ou bien son travail de fin de cycle. Cet étudiant qui est bloqué, qui ne sait pas communiquer avec son professeur. Imaginez ce chercheur qui devait être en train de pouvoir utiliser Internet afin de pouvoir obtenir des données pour faciliter sa recherche. Imaginez cet hôpital qui on est en train de vouloir parler de la révolution du numérique, c'est le concept au niveau global. Mais si Internet est coupé, c'est qu'on est en train de régresser et c'est comme si on revenait à l'âge de la pierre taillée.
Oui, et certains affirment que l'accès à Internet est un droit fondamental comme tous les autres droits.
Alors, il y a deux tendances. Au niveau global, je suis un de ces acteurs qui participent à ces discussions au niveau global. Il y a deux tendances. Il y a d'un côté certaines personnes qui font beaucoup de plaidoyers pour que Internet, ou bien l'accès à Internet soit considéré comme un droit de l'homme comme tous les autres droits inscrits dans la Charte universelle des droits de l'homme. Mais de l'autre côté, une autre école de pensée qui pense que l'accès à Internet ne devrait pas, du moins Internet ne devrait pas être considéré comme un droit de l'homme, mais plutôt comme un outil qui favorise ou qui permet la réalisation des droits de l'homme. Parce que si on prend l'accès à l'information, l'accès à ou bien la liberté d'expression, l'accès à l'information, ce sont des choses qui sont facilitées avec Internet. Et donc si tu veux jouir à ton droit d'accès à l'information, tu peux utiliser Internet. Si tu veux utiliser ton droit à l'expression, tu peux aussi utiliser Internet. Donc il y a ces deux pensées et chacun peut choisir le camp qu'il préfère. Mais ce qui est, ce qui est à savoir, c'est qu'à ce siècle ici, Internet est devenu de plus en plus un outil indispensable et donc toute personne devrait être en mesure de pouvoir se connecter. Les statistiques au niveau global nous disent que déjà un peu plus de la moitié de la population mondiale est en train de, est déjà en mesure de se connecter sur Internet. Et donc, vous voyez que le gap au niveau international sur toute la planète, on a encore près de la moitié de la population mondiale qu'il faut connecter à Internet.
Voilà. Donc, il y a deux tendances. Certains pensent que c'est un droit fondamental. D'autres pensent que c'est tout simplement un outil, un moyen.
Qui permet de la réalisation qui permet de jouir, qui permet à la population, bien aux populations, de jouir de ses droits.
Voilà, nous parlons aujourd'hui de comment faciliter l'accès à Internet en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire, Arsène Tungali, d'après vous, pour que le plus grand nombre des citoyens congolais puissent avoir accès à Internet aujourd'hui et éviter surtout les coupures qui causent beaucoup des dommages?
Voilà, je dis, tu sais, il y a tout, c'est un problème de volonté politique, parce que toutes ce sont des grandes questions qui ne peuvent pas être résolues par la population, la simple population. Ce sont des décisions qui doivent être prises au niveau des dirigeants, parce que ce sont les gouvernements qui prennent des contrats avec les entreprises télécoms. Ce sont les dirigeants politiques qui sont en mesure de pouvoir contacter les entreprises afin de pouvoir investir. Et donc, d'un côté, il faut qu'il y ait une amélioration du climat des affaires dans notre pays pour que les opérateurs télécoms ou bien les autres investisseurs dans le secteur de l'infrastructure puissent être en mesure de venir investir dans notre pays. Ça, ce sera d'un côté, parce que cela permettra de résoudre la question de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est tous ces câbles, c'est toutes ces antennes que nous voyons avec les entreprises télécoms. C'est des grandes choses qui demandent un gros investissement que malheureusement la population ne sait pas faire. Et donc, d'un côté, si le gouvernement a assaini le climat des affaires, ça pourra essayer de résoudre la question. Mais des deux, il faut qu'il y ait une bonne politique dans notre gouvernement qui comprend que Internet est aussi peut devenir aussi une source de revenus qui contribuerait à l'économie ou bien au PIB de notre pays. Jusqu'à ce que le gouvernement pensera que seulement ce sont les minéraux ou bien les ressources naturelles de notre pays ou bien c'est beaucoup plus ou uniquement l'agriculture, on ne sera pas en mesure de pouvoir utiliser Internet afin que celui-ci fasse partie de l'économie de notre pays. C'est dans beaucoup d'autres pays actuellement où on parle de l'économie numérique. C'est un ministère, par exemple, spécifique dans certains pays où il y a un ministre de l'économie numérique. Et donc, quelqu'un qui voit et qui a défini des politiques afin de rendre Internet comme un outil qui contribue à un grand pourcentage au PIB de notre pays. Et donc, lorsque le gouvernement, en deuxième lieu, décidera de prendre Internet comme un outil important qui peut faciliter le développement de notre pays. Peut-être cela aidera également à ce que beaucoup de gens puissent avoir accès à Internet. Mais il y a un troisième aspect et qui nous fait mal. En tant qu'activiste de ces questions sur la gouvernance de l'Internet, mais également des libertés fondamentales, bien des libertés sur Internet, ça nous fait mal lorsque nous sommes dans des assises au niveau international et qu'on parle de la RDC comme un de ces pays où il y a violation des droits de la population à l'accès à l'information, bien à la liberté d'expression. Parce que Internet, comme étant cet outil-là, le faible taux de pénétration, bien le peu de gens qui sont à mesure de se connecter, mais si elles doivent faire face encore à une certaine coupure, ça c'est une violation. Le gouvernement dira que c'est pour une question de sécurité nationale, mais la population ne réfléchit pas de l'autre côté comment est-ce que la population qui déjà souffre pour avoir accès aux ressources et pour se connecter, mais qui en fait même ceux qui ont été en mesure d'avoir accès aux ressources ne savent pas se connecter tout simplement parce qu'il y a eu une décision d'un gouvernement lorsqu'il y a probablement une marche politique qui va se tenir alors pour empêcher aux gens, aux manifestants de pouvoir mieux coordonner leur mouvement. Il faut couper Internet, comme ça ils ne seront pas en mesure de bien s'organiser en utilisant WhatsApp ou en utilisant des SMS. Et donc lorsqu'il y a coupure, c'est pas généralement c'est pas seulement Internet qui est coupé, mais tu verras que ce soit des appels ou bien des SMS également qui sont coupés. Et tout ça, ce sont des choses qui, si elles ne sont pas changées ou bien si il n'y a pas une bonne politique dans ce secteur-là, eh bien on ne parlera pas de l'économie numérique dans notre pays. Et donc, on restera parmi les pays qui sont en arrière par rapport au développement des technologies.
Bien, on va accueillir deux auditeurs qui sont en ligne. Pierrot nous appelle de Lubumbashi et Platini de Mbandaka. Nous parlons de l'accès à Internet. Comment faciliter l'accès à Internet en RDC à un plus grand nombre de citoyens congolais? Pierrot de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis, c'est Pierrot Pagna de Lubumbashi.
Quelle est votre question, Pierrot, par rapport à ce thème?
Ma préoccupation, c'est de... si je recours à des écrivains, George Washington, ancien président de l'Amérique, avait dit, je cite, « Lorsque la liberté d'expression nous est enlevée, muée ou silencieuse, nous sommes conduits à l'abattoir comme des brebis. » Ça, c'est une citation qui m'intéresse. Parce que je trouve que aujourd'hui, dans tout le monde, la connexion Internet reste une chose qui est peut-être une luxe, pour bien dire. Alors, je m'aimerais demander, j'ai mes trois préoccupations et questions, pour savoir, s'il vous plaît, en RDC notre pays, quel est ce ministère-là qui est en train de contrôler ce secteur de l'Internet? Parce que nous avons suivi Mende, nous avons fait plus de 23 jours sans avoir l'Internet pendant les élections, où tout le monde attendait, nous étions en train d'attendre le Congolais qui était à l'extérieur du pays, cherchait à avoir les informations par l'Internet.
Oui, oui, Pierrot, nous savons qu'il y a le ministère de PTNT qui s'en occupe. Alors, quelle est la question, allez-y droit au but, quelle est la question que vous adressez à l'invité qui est en ligne?
Oui, si ce ministère-là est en train de faire son travail, comment Lambert Mende était en train de prendre le ministère de la communication et médias, c'est lui qui était en train d'intervenir. C'était ma préoccupation.
D'accord.
Il disait que moi, non. Et puis, deuxième question, pour couper la connexion Internet, il y a des ententes entre le ministère et qui gère ce secteur-là. Pour finir, j'aimerais demander si les abonnés et leur argent. Nous payons le méga pour se connecter. Alors, si on coupe brusquement le service, est-ce que le réseau-là ne nous respecte pas nos mégas? Est-ce que nous pouvons aller saisir au niveau de services pour qu'ils puissent rembourser ou comment...
Retourner vos mégas, d'accord. Merci Pierrot. Platini, vous êtes en ligne depuis Mbandaka. Bonjour.
Je dis Daniel, bonjour l'invité. C'est Platini Mbombo depuis Mbandaka.
Quelle est votre question par rapport à l'accès à Internet en RDC?
Merci beaucoup, j'ai dit, et je crois que je voudrais quand même profiter de cette occasion pour vous dire bonne année 2019, et aussi bonne année à toute l'équipe de la Radio Capi.
Merci, on n'a pas beaucoup de temps, allez-y droit au but, Platini.
Merci beaucoup, je dis, je crois que la thématique d'aujourd'hui, c'est très important. L'accès à l'Internet, à la République démocratique et du Congo, c'est très important. Aujourd'hui, le monde est devenu petit grâce à l'Internet, grâce à Facebook, WhatsApp, Imo, tout comme ça. Maintenant, il se pose un problème parce que, et je dois quand même revenir à mon ami, le professeur qui a dit que quel est le ministère qui gère ça. Et vous avez répondu que c'est le ministère des pétentiques. Mais je dis que ça nous fait très mal, nous les consommateurs, parce que souvent, nous tous, nous utilisons l'Internet, merci nos téléphones, même vous, là, même moi, partout, tout le monde utilise les téléphones à la maison, l'Internet et tout ça. Mais maintenant, là, il se pose un petit problème. Souvent, l'Internet, quand on met le méga, on l'a, c'est pour entrer à l'accès à l'Internet. Mais il se pose un sérieux problème. Moi, c'est que je suis maintenant là. Depuis hier, ma WhatsApp, ça ne fonctionne pas, Facebook me le marque. Quand je entre sur l'Internet, on me dit seulement échec, je ne comprends rien. Alors, je ne vais rapidement un peu c'était pour demander un peu à l'invité qui est avec vous là-bas, hein, que l'invité quand même nous dise, parce que il y a quand même les procédures, il y a quand même le thématique que nous les consommateurs on peut quand même suivre à rapport avec l'accès à l'Internet. Alors si l'invité peut nous dire, parce que la fois passée, si je peux quand même revenir ce qui s'est passé au moment des élections, tout ça, on a fait au moins un mois sans Internet.
D'accord.
Rien du tout.
Oui, d'accord. Alors, merci, Platini.
Si réellement l'invité peut me répondre, parce que j'ai une question.
Oui.
Si l'invité peut me répondre, si on met le méga, et que les mégas partent comme ça. Et on fait tout pour entrer à l'accès à l'Internet. Et l'Internet, ça n'existait pas. Quelles sont les procédures? Et moi, maintenant, là, mon page de WhatsApp, Facebook, ça ne fonctionne même pas.
D'accord. D'accord. Merci. Merci. Merci également à tous les internautes qui, je vois déjà les réactions tomber sur la page Facebook de Capi Service. Avant de les lire, Arsène Tongali, vous avez la parole.
Merci, merci à Pierrot, merci Platini, merci Jody pour cette opportunité. En fait, il y a beaucoup d'aspects qui doivent être relevés dans les deux interventions de nos chers auditeurs. En fait, tu as raison, lorsqu'il y a une confusion de tâches entre qui est l'organe habilité à pouvoir ordonner une coupure d'Internet dans ce pays. C'est vrai, nous avons vu à un moment le ministère des Communications et Médias à être en avant, mais à un autre moment, c'est le ministère des PTMTIC. Mais normalement, c'est le ministère des PTMTIC qui est le ministère régalien, bien le ministère des tutelles dans ce secteur ici. Et donc, toutes les décisions par rapport aux télécommunications, par rapport aux nouvelles technologies, sont des décisions qui sont prises par le ministère des PTMTIC. Alors, lorsqu'il y a une certaine coupure d'Internet, voici deux choses. Quand je parle de la gouvernance de l'Internet, c'est ce processus qui facilite à différentes parties prenantes de tous s'asseoir sur la table afin de prendre une décision qui concerne l'utilisation du numérique ou bien des questions d'Internet dans une région ou bien dans un secteur particulier. Et différentes parties prenantes, ce sont d'un côté les utilisateurs qui sont considérés principalement comme la société civile. De l'autre côté, il y a le gouvernement. De l'autre côté, il y a les chercheurs, il y a les académiciens, mais également la communauté technique. Lorsqu'une décision de coupure d'Internet doit être prise, normalement dans une situation idéale, toutes ces personnes devraient être consultées afin que chacun puisse donner une certaine explication. Par exemple, les business qui sont les entreprises télécom et les fournisseurs d'accès à Internet, entre autres, ils diront, par exemple, pour une question comme celle-ci, nous allons beaucoup perdre en termes d'argent. Mais le gouvernement, de l'autre côté, il pourra dire, mais voilà, il y a une question de sécurité nationale. Mais de l'autre côté, les utilisateurs, la société civile pourra aussi avancer des motifs et dire, voilà, nous sommes des étudiants, nous devons avoir accès à Internet pour fonctionner. Nous sommes les petites entreprises, nous devons avoir accès à Internet pour fonctionner. Et ensemble, ils pourront être en mesure de trouver la bonne solution à faire. Parce que la coupure d'Internet n'a jamais été la solution qui doit être prise, quelle que soit la situation politique, bien quelle que soit la situation sécuritaire du pays. Alors, qu'est-ce que l'utilisateur devrait faire dans un cas comme ça? Je voudrais utiliser cette opportunité pour mentionner un cas qui est plus ou moins emblématique et peut-être beaucoup de gens ne sont pas encore au courant. Mais il y a un procès qui a été intenté contre les entreprises télécoms dans notre pays.
Oui.
Par rapport à la récente coupure d'Internet, celle qui a duré 20 jours, donc juste après les élections. Il y a une procédure juridique qui a été initiée par d'un côté un collectif d'avocats qui représente les utilisateurs, mais aussi quelque chose comme une association des utilisateurs d'Internet, parce qu'ils se disent, les entreprises télécom, ils ont un contrat avec le client, et lorsque nous souscrivons à leur service d'Internet, c'est comme un contrat que nous avons entre nous et eux. Et donc, ils ne devraient pas, de manière unilatérale, quelle que soit l'injonction qu'ils ont reçue, de manière unilatérale, couper l'accès à nos services parce que nous avons payé pour ce service. Ce n'est pas une faveur qu'ils nous donnent, mais c'est plutôt un service que nous avons acheté. Et donc, cela nous met dans une certaine relation. Alors, nous, en tant qu'utilisateurs d'Internet, nous avons le droit de pouvoir poursuivre en justice les différentes entreprises télécoms qui ne sont pas en train de réaliser leur partie du contrat. Et il y a ce procès emblématique qui se passe à Kinshasa, et je voudrais citer Maître Hervé Diakese, qui est un le représentant du collectif des utilisateurs d'Internet, qui va avoir une deuxième audition le 19 février. Mm-hmm. Je connais pas quelle juridiction exactement, je me rappelle pas. Mais ça, c'est une,
oui,
chose qui est très importante.
Arsène,
et que toute,
oui,
la population congolaise.
Arsène, il y a une question par rapport à la qualité. C'est bien que nous parlons aujourd'hui de l'accès à l'Internet qui est faible. Il y a aussi même la qualité de la connexion qui est fournie, qui pose problème.
qui laisse à désirer. C'est tout ça en fait qui est notre responsabilité, parce que lorsque nos droits sont bafoués et que nous ne faisons pas le pas pour les revendiquer, eh bien les entreprises télécoms penseront que le service qu'ils sont en train de fournir est le meilleur. Parce que nous allons, par exemple, il y a un certain réseau, je ne voudrais pas citer le nom, qui entre 18h et 20h par exemple, en tout cas on a du mal à pouvoir se connecter. Et la population se dit, bon, ok, donc entre 18h et 20h, je vais arrêter, je vais attendre à 21h, comme ça je vais reprendre à mon activité sur Internet. Mais on ne devrait pas être passif de cette façon-là. C'est un droit qui nous est privé parce que c'est un contrat qui nous unit avec les entreprises télécoms. Et donc, il y a d'un côté l'aspect accès, mais il y a de l'autre côté l'aspect qualité, comme tu l'as dit jeudi. Et donc, ce sont ces deux choses que nous devons, en tant que société civile ou bien utilisateur d'Internet, pour lesquelles nous devions rendre accountable les différentes entreprises télécoms qui sont en train de nous priver de notre droit. Alors, il y a beaucoup d'activités que nous faisons au niveau international en termes de plaidoyer. Mon organisation Rudy International, qui travaille essentiellement sur les questions des libertés sur Internet, nous travaillons sur beaucoup de déclarations, nous avons fourni beaucoup de rapports qui montrent l'état des choses au niveau du pays, mais également des recommandations que nous adressons au gouvernement, aux entreprises télécoms, aux autres entreprises commerciales qui travaillent dans ce secteur, et beaucoup d'actions que nous devons faire pour nous rassurer que la pauvre population qui paye les mégas soit en mesure de pouvoir les utiliser et en tirer bénéfice, parce que c'est de l'argent qui est en train d'être payé. Il y a beaucoup de recommandations que nous écrivons, par exemple pour la revue périodique universelle du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui devrait être en mesure de pouvoir faire certaines pressions au gouvernement pour leur prouver qu'il n'est pas bon et que ce ne devrait pas être ça la voie qu'ils doivent suivre lorsqu'ils doivent, pour des raisons politiques, couper l'accès à Internet. Il y a par exemple un pays comme le Kenya, où lors de leurs récentes élections, la population s'est mise et est allée voir les autorités pour leur dire, faites une déclaration publique que vous n'allez pas couper Internet, quelle que soit la raison pendant ce processus électoral. Le gouvernement l'a fait et effectivement, il n'y a pas eu coupure d'Internet. Dans notre pays, j'espérais personnellement que comme les élections ont été telles qu'elles ont été, je ne voudrais pas parler de ça, mais le gouvernement devrait aussi être en mesure de pouvoir prendre une position et dire oui. Nous n'allons pas priver à notre population du droit d'accès à l'information, du droit d'accès à l'Internet et tous les avantages qui y sont liés.
Alors, Arsène Tongali, pour faciliter l'accès à Internet, la première chose, le gouvernement doit prendre l'engagement de ne plus couper l'accès à Internet. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre?
Alors, le gouvernement doit prendre la décision, c'est vrai, la résolution de ne jamais couper Internet. Mais de l'autre côté, le gouvernement doit assainir le climat des affaires pour qu'il y ait des investisseurs. Les investisseurs, ce seront les entreprises de télécom. Ce n'est pas intéressant que pour un si grand pays, nous n'avons que trois entreprises télécom qui couvrent toute la RDC et peut-être un seul qui couvre peut-être une ou deux provinces du pays. Pour un grand marché comme celui-ci, il devrait y avoir peut-être 5 ou 10 ou peut-être plus, parce que lorsqu'il y a une certaine concurrence, cela a beaucoup de répercussions sur le coût d'accès. Et donc le gouvernement, à côté de ne pas couper Internet, il devrait assainir le climat des affaires et faciliter à les entreprises de pouvoir venir et développer leurs affaires dans notre pays. Mais de l'autre côté, le gouvernement devrait encourager d'une certaine manière toutes les entreprises congolaises qui travaillent dans le secteur de la promotion des activités du numérique afin de pouvoir leur donner beaucoup de crédit et être en mesure de les encourager à pouvoir beaucoup travailler pour encourager la population à avoir accès à Internet. Personnellement, nous avons remarqué qu'il y a 2 ou 3 choses qui empêchent les gens à se connecter sur Internet. D'un côté, ils se disent pourquoi est-ce que je devrais avoir accès à Internet? Et de l'autre côté, ils se disent comment est-ce que je dois avoir accès à Internet?
D'accord, Arsène, je reviens à vous.
En train de former les gens pour leur dire voici pourquoi est-ce que vous devez utiliser Internet, voici comment est-ce que vous devez utiliser Internet pour ne pas faire face aux dangers qui sont liés à ça également.
Voilà, on va accueillir Marcel et de Louisa et Hugo qui nous appellent d'Ecologie. Marcel, bonjour.
Bonjour à tous, c'est Marcel Didier Passois à Louisa. C'est un très bon sujet. Je salue aussi l'initiative de cette émission. Vous allez voir que même l'invité est en train de revenir sur les éléments les plus récurrents. À mon avis, pour faciliter l'accès à l'Internet au 21e siècle, surtout M. Diony, Il aurait fallu que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse dépolitiser et démocratiser ce secteur pour ne plus, n'est-ce pas, assister à des restrictions dont nous avons été victimes tout les temps passés que vous êtes sans ignorer avec les gouvernements partants. C'est-à-dire que pour éviter aussi ces histoires, il aurait fallu aussi appeler aussi à la conscience des utilisateurs qu'ils puissent utiliser avec objectif, qu'ils puissent les utiliser par rapport aux objectifs économiques et consorts, mais aussi il aurait fallu que les utilisateurs puissent ne pas utiliser ces secteurs comme si c'était pour des intérêts obscènes, des jures et consorts, pour des intérêts...
Alors, quelle est la question, Marcel, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
La question, c'est que comment éradiquer les phénomènes par rapport, vous avez vu, quand on était en train d'installer la fibre optique, il y a des voleurs de câbles qui pour des intérêts privés. Comment faire pour ne plus assister à ce genre de comportement de la population qui va par moment la nuit pour décanaliser et avoir les câbles et revendre ça pour leurs intérêts? Comment réaménager?
D'accord, merci Hugo. Vous êtes en ligne depuis Colosie, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également l'invité du jour.
Quelle est votre question?
Effectivement, ma question est celle-ci. Depuis que l'on a eu le placement de la fibre optique au sein de notre province, nous vivons chaque fois des interruptions. Nous nous posons des questions. Ce sont les instruments qu'on a placés qui ne sont pas d'un bon état. Pourquoi? Ça, c'est la première question que l'invité doit nous répondre. Et la seconde question... L'invité vient de nous dire que c'est un droit garanti par la Charte universelle des droits de l'homme. Et s'il est ainsi, qu'est-ce qui fait que la connexion de l'Internet peut être interrompue par le vouloir d'un groupe restreint de gens pour permettre la perte de mégas pour toute une étendue nationale? Ces deux questions-là peuvent être ma préoccupation.
Merci Hugo. Nous avons sur Internet quelques réactions des internautes. Francis Bauer nous dit « Les sociétés des télécommunications pénalisent la population à accéder facilement à Internet en augmentant les prix des mégabytes. Je demande à l'invité s'il y a moyen de parler avec les DG des sociétés des communications pour réduire les prix des mégas afin d'aider les jeunes à avoir accès facilement à Internet. » C'est Francis Bassoa de Kananga. Saïdin nous dit « L'Internet dans notre pays est plus cher que dans les pays voisins, ici à l'est du pays, en plus d'une vitesse très faible. Pour accéder à Internet, moi j'utilise la SIM d'un opérateur des télécommunications du Rwanda et c'est là pour échapper aux coupures selon la volonté de nos dirigeants. » Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs et internautes, Arsène? Arsène, vous êtes en ligne?
Moi-même, j'ai du mal à écouter certaines questions des auditeurs.
Voilà, il y a eu plusieurs réactions des auditeurs. Il y a l'un qui a parlé, Marcel, qui a parlé du vol des câbles qui étaient utilisés pour la fibre optique. Et Hugo de Colésie veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, faciliter l'accès à Internet à un plus grand nombre des gens. Et Saïdien Ephrem nous a écrit lors de la coupure d'Internet, certains étaient utilisés de recourir au SIM du Rwanda pour avoir la connexion. Même à Kinshasa, on a vu des gens se rapprocher de Brazzaville pour avoir la connexion à Internet. Arsène, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Alors, ça, c'est des exemples qui sont concrets, qui nous montrent comment est-ce que la population est vulnérable et comment est-ce que la population essaie de se prendre en charge lorsque le gouvernement est en train de faillir à sa responsabilité de rendre la vie des citoyens beaucoup plus intéressante. Lors de la récente coupure d'Internet, je suis à Goma présentement, il y a eu beaucoup de gens qui ont dû aussi acheter des SIM cards du Rwanda et les utiliser en RDC, ou bien aller chaque fois passer des journées dans les hôtels au Rwanda afin d'avoir accès à Internet. Et moi, je me mets à la place de toutes ces personnes qui sont en train de perdre de l'argent qui devrait normalement être consommé à l'intérieur du pays. C'est des télécoms qui sont en train de perdre tout cet argent qui est en train d'être payé aux télécoms du Rwanda. C'est le gouvernement congolais qui va perdre en termes de taxes, la taxation qu'ils font aux entreprises télécoms, parce que les entreprises télécoms ne vont pas fonctionner au pays, mais c'est celles du Rwanda qui vont bénéficier des revenus des utilisateurs congolais.
Et donc tout ça, c'est des choses qui montrent là au gouvernement qu'il devrait peut-être revoir sa façon de voir les choses et de ne plus permettre ce genre de choses, que la population soit obligée d'aller utiliser les services à l'extérieur du pays juste parce que le gouvernement a décidé de ne pas leur offrir la connexion. Alors, le vol de câbles, ainsi de suite, je crois qu'il y a un problème dans notre population également. Quand elle se dit, mais quand je dis qu'il y a un problème d'infrastructure, mais le peu d'infrastructure qui existe, qui a été disponibilisé par les opérateurs télécoms, mais qu'il y a la population qui va dans des actes de vandalisme, de pouvoir, je ne sais pas, couper ces câbles. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains de nos compatriotes, et je crois qu'il faut peut-être une certaine sensibilisation pour leur dire ces câbles ici ne devraient pas être volés parce que ce sont des câbles qui nous servent à pouvoir nous connecter. C'est pareil pour le câble de la SNEL et peut-être pour les tuyaux de la régie des eaux. Donc il y a un besoin de sensibilisation de la population. Par rapport au prix des mégas, vous allez peut-être vous rappeler, là je parle aux auditeurs, d'un arrêté du ministre de PTMT qui a été signé également, co-signé par le ministère des Finances et du Budget, je crois, qui devrait employer une entreprise étrangère afin de pouvoir venir contrôler le flux de la part des opérateurs télécoms. D'un côté, cette décision a été bonne parce que ça permettre au gouvernement de ne pas rater en termes de revenus de toutes les entreprises télécoms. Mais la manière dont cette décision pourra affecter les télécoms financièrement, et donc les télécoms pourront eux aussi répercuter cette charge-là aux utilisateurs parce que eux, c'est des entreprises qui sont commerciales. Et donc lorsque le gouvernement hausse les taxes de leur côté, et donc eux aussi vont remettre cette charge-là à la population. Et c'est ainsi que nous avons remarqué que les prix des mégas vont monter ou ont déjà monté, que certains ne sont plus en mesure de pouvoir accéder aux activations des SMS sur les différents réseaux, que certains ne seront plus peut-être en mesure de payer le frais qui sera imposé pour avoir accès à Internet. Ce sont des choses qui demandent une certaine régulation. Et je me pose la question des fois, lorsque le gouvernement prend des décisions comme celle-là, est-ce qu'elle imagine ce que cela pourra avoir comme effet sur la pauvre population? Parce que d'un côté, le gouvernement pourra peut-être gagner en termes de taxes, mais la population, si elle n'utilise pas le service, et donc au finish, le gouvernement n'aura rien gagné parce que la population ne sera pas mesure de pouvoir utiliser le service. Je suis d'accord avec Marcel qui a dit qu'il faut dépolitiser et démocratiser le secteur. Lorsque le secteur des télécoms est géré par un politicien qui n'est pas un technicien, et donc nous allons subir les conséquences parce que ce seront des décisions politiques qui seront prises et non des décisions qui sont commerciales, bien des décisions qui permettent le développement de ce secteur. C'est peut-être pour ça qu'on a peut-être besoin de revoir le ministère de PTMT et essayer d'inclure un aspect de l'économie numérique dans ses responsabilités.
Voilà, donc, il est important
que les utilisateurs puissent comprendre que les infrastructures qui sont mises à notre disposition par les télécoms devraient être bien gérées, parce que si nous coupons un câble quelque part, c'est que c'est toute une partie de la population qui est pénalisée et dont nous-mêmes, nous ne serons pas en mesure de nous connecter.
Voilà, on va accueillir Bodiko de Zongo et Malonga de Banouville. Bodiko, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question par rapport à l'accès à Internet en RDC?
Oui, bon, Jody, je voudrais d'abord parler de la connexion qui concerne ma ville. Hein.
Oui, rapidement, et puis passer à la question.
D'accord. Je dis, moi d'abord, dans notre ville, la ville de Zongo, nous avons un problème sérieux. Depuis que la connexion a été installée au Congo, depuis que nous avons connu la connexion, nous avons jusque-là que les 10G+. Et je suis bloqué que nous ne connaissons pas cela, nous ne connaissons même pas les 3G+. Nous avons des difficultés. Vous voyez, des fois, à Zongo, nous avons qu'une seule radio, la vôtre qui émet. Ou, des fois, les gens veulent s'en procurer de la connexion pour avoir des informations que vous donnez ou encore que les autres donnent, parce que vous la radio Kabé, vous faites un bon travail, mais les autres veulent encore approfondir les informations parce que les informations sont nombreuses. Ça, c'est un. De deux, à ce concernant la coupure de la connexion, nous, même au niveau de l'ONG Congo Vision Maurice, nous avons déploré cela quand il y a eu coupure. Mais la responsabilité de la connexion de comment privilégier la connexion, cela revient au gouvernement. Le gouvernement nous a promis il y a des 4 ans, si j'ai une bonne mémoire, les fibres optiques. Je ne sais pas si nous sommes maintenant ou par rapport aux fibres optiques, qu'il a invité un peu de nous parler des fibres optiques. Merci, Zachary, pour dire que la recherche de la vie des hommes.
Merci, Zachary. Malonga de Bandouville, bonjour. Et quelle est votre question?
Oui, bonjour, aujourd'hui, bonjour à notre invité à tous ceux qui nous suivent. Bon, aujourd'hui, en tout cas, avant de poser la question, je félicite d'abord, en tout cas, le réseau Orange, puisque moi, je suis sur Orange. Lorsque on avait coupé le signal pendant la période d'élection, j'avais mes mégas. J'avais passé par ici, par là, dans des shops pour réclamer s'il y a moyen de me conserver ces mégas. Ils n'ont pas eu vraiment la solution. Lorsqu'on a rétabli, en tout cas, merci vraiment à ces réseaux-là, on a tout gardé et on a remis tous mes médias. C'est comme ça, il faut comme ça. Bon, pour la coupure, pour l'interruption, l'État a le droit de faire tout ce qu'il peut faire dans son État. Mais il doit savoir que l'Internet, c'est un grand mouvement social qui existe aujourd'hui dans le monde de la planète, d'un village, d'un planétaire. Il doit tenir compte des besoins. C'est moins de bizarre d'affaires. Ah, si on coupe comme ça, c'est mieux de nous avertir avant. Il y a des radios, il y a de quoi, ils peuvent avertir que c'est celle-ci, celle-là. Bon, si ils coupent seulement pour leurs intérêts, pour leur sécurité, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils interrompent la vie, un mouvement social qui peut provoquer aussi même de la mortalité. Parce qu'il y a ceux qui vivent. Moi, dans l'Internet, cela est vrai. Parce que c'est un monde d'affaires. Alors, ce que je peux demander ou bien suggérer, s'il y a moyen, le réseau est déjà là, l'Internet est là, encadre beaucoup déjà, pour les services différents. Ils peuvent mettre en place une loi pour ça, hein, pour que chacun qui est dans ces réseaux-là, il doit connaître que non, moi je sais que si, mais je dois obéir. Comme nous sommes comme ça, réseau pour laquelle il y a les injures dans le réseau, il y a des points, puisqu'il n'y a pas de loi qui nous gère pour naviguer sur l'Internet. Je crois que c'est ce que je peux m'éviter là.
Voilà, merci à Malonga de Bandouville. Alors, il y a un internaute qui nous dit que pour... voilà, c'est Candela Kitoko. Pour améliorer, faciliter l'accès à Internet à un plus grand nombre de citoyens congolais, il faut finir avec la fibre optique. Et cela va faciliter l'accès à Internet, parce qu'on nous a parlé de la fibre optique. Il y a eu même une inauguration en pompe, mais après, c'était... on a passé des messages à la télévision, mais après, les résultats, c'était catastrophique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs, Arsène Pomalé?
Alors, je suis content que l'auditeur de Zongo, je crois, ait parlé du problème d'électricité, parce que lorsque je suis en train de parler de l'infrastructure, en fait, il est difficile que les gens aient accès à Internet s'ils n'ont pas accès à l'électricité. Ce sont des téléphones qui ne seront pas chargés, des ordinateurs qui ne seront pas chargés. C'est toutes les entreprises télécoms qui seront obligées d'utiliser des générateurs avec du carburant, et cela va leur coûter beaucoup, et cela aura une répercussion sur le coût d'accès à leurs services. Et donc, le gouvernement devrait bien voir cette question et se rassurer que les services d'électricité sont en train de bien faire leur travail. Elle m'a parlé de la fibre optique et le besoin. Moi je suis tout le temps dans entre deux avions, donc j'ai eu la chance de faire un tour dans beaucoup de pays du monde. Et donc, je sais ce que c'est la fibre optique et je sais les mérites ou bien les avantages lorsque une maison ou une entreprise est connectée directement à la fibre optique. C'est quelque chose que nous devrions aussi avoir déjà. Et je crois que c'était un projet qui était lorsque... Le ministre de PTMT, je crois que c'était Kinkei, le prof Kinkei à l'époque qui pilotait ce projet. Et maintenant, toutes les questions par rapport à la fibre optique, peut-être c'est au ministère de PTMT, mais également à la SPT, qui devrait donner une réponse par rapport à ça. Alors, il y a un problème de législation aussi. Nous avons la loi qui gère les télécoms dans notre pays qui date de 2002. Une loi qui a été votée et promulguée en 2002. Imaginez en 2002, c'était quoi? L'accès à Internet ressemblait à quoi en 2002? Si aujourd'hui, à cette date ici, on est à moins de 20% des taux de pénétration dans notre pays. Imaginez, en 2002, ça c'est plusieurs années, un peu plus tôt. Et donc, je crois que c'est peut-être 5 ou 10, peut-être à la limite 10% de la population qui était connectée. Et donc, la loi sur les télécoms qui a été votée en 2002 ne couvre pas beaucoup d'aspects qui sont liés au développement du numérique à ce stade ici. Et donc, il y a une nouvelle loi qui était en discussion au niveau de deux chambres du Parlement. Et je me pose la question, où est-ce qu'on en est? C'est quand même une loi qui prend en compte beaucoup d'aspects dans les questions de vie privée, des questions de liberté sur Internet, et ça touche également les différentes personnes qui doivent avoir accès aux données privées, aux données personnelles des différents utilisateurs. Et donc il y a un besoin qui est beaucoup plus de la population puisse pousser le gouvernement à pouvoir faire passer, ou bien le Parlement à pouvoir faire passer cette loi, qui ne sera pas la loi sur les télécoms uniquement, mais la loi sur les télécoms et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc c'est une loi quand même qui pourra aider à revoir tout l'écosystème du numérique dans notre pays. Et nous espérons que celui-là pourra nous permettre de pouvoir avancer d'une certaine manière. Internet est un outil qui devient de plus en plus indispensable. Et le peu de gens qui peuvent y avoir accès peuvent en témoigner. Mais il y a encore beaucoup d'autres gens qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Et des personnes dont les vies peuvent être améliorées si elles aussi peuvent avoir accès à Internet. Donc c'est un appel à tous les entrepreneurs, à toutes les entreprises télécom, à tous les investisseurs de pouvoir venir investir dans ce secteur dans notre pays et nous aider à pouvoir aussi jouir de tous les bénéfices et tous les bienfaits qui sont liés à l'accès à Internet.
Voilà, on va terminer avec deux auditeurs, Marcel Boto de Kananga et Kacha et de Kanyoka. Marcel Boto, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Monsieur Jeunesse, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui. Oui, moi je voulais aussi poser à l'invité. L'invité a trop parlé sur l'utilisation, mais il n'a pas parlé surtout sur les comportements où les utilisateurs vont utiliser l'Internet. Parce que nous voyons déjà que d'autres fois que nous donnons toujours tort au gouvernement, même nous les utilisateurs, nous utilisons mal l'Internet là. Parce qu'il fait déjà un dieu de jure, un dieu de comme ça, ça ne va pas. Et comment aussi, à la prochaine, comme l'invité est déjà là, vous pouvez chercher l'émission, comment gérer, comment surtout utiliser l'Internet dans les voies qui sont nécessaires aussi. Alors, la deuxième question que je voulais lui poser, parce que souvent quand on coupe la connexion, l'Internet, la connexion surtout, nous voyons dans les bureautiques, ça fonctionne. Et on pénalise que ceux qui utilisent les téléphones. Comment les invités peuvent expliquer cette différence-là?
D'accord, merci. Kachai de Kanyoka, bonjour.
Bonjour, monsieur Joti, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup. Moi, je voulais tout simplement demander à l'invité, parce que les entreprises de télécommunications ont des difficultés à accéder dans le milieu reculé du pays où il n'y a pas des antennes pour permettre à certaines populations de ces coins-là de pouvoir se connecter et émettre aussi leur point de vue, consulter si le besoin se présente. C'est pourquoi je voulais demander à l'invité, qu'est-ce qu'il faut aussi pour que les populations des coins reculés et recoins puissent aussi accéder facilement à l'Internet. De deux, par rapport à toutes les incriminations infligées à l'endroit du gouvernement sortant qui ne se comportait pas bien à l'endroit des internautes, des populations, ainsi de suite. Alors, prions les bons dieux pour que le gouvernement entrant ici puisse commencer à considérer normalement les droits du peuple congolais. Maintenant, je voulais au moins demander par cette occasion à l'invité, parce qu'il a dit que l'accès à l'Internet ne constitue pas un droit. Bon, alors que les représentants du secrétaire des Nations Unies, lorsqu'il y a eu coupure de l'Internet lors de la publication des résultats, disaient que c'est un droit et le gouvernement congolais a violé nécessairement ses droits liés à la communication des peuples congolais. Alors, il n'y a pas moyen de faire un plaidoyer pour que l'accès à l'Internet constitue déjà un droit parmi les droits fondamentaux de la population. Merci beaucoup.
Bien, merci. Arsène Atungali.
Voilà. En fait, il y a Marcel qui a parlé, c'est vrai, on peut incriminer le gouvernement d'un côté, mais les utilisateurs aussi devraient revoir leur façon d'utiliser Internet. Il a raison. Mmh. En fait, l'utilisation de l'Internet est sujet à beaucoup de déviations que nous pouvons voir actuellement avec la montée des réseaux, de l'utilisation des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter et peut-être beaucoup d'autres applications. Il y a des problèmes comme de l'intox
ou bien des fake news, comme on les appelle, que nous voyons qui sont en train de se passer sur tous les réseaux sociaux. Mon organisation est partenaire avec Facebook. Et donc nous sommes toujours en train de faire une campagne pour encourager la population à pouvoir dénoncer certaines pratiques qui sont pas conformes à notre moralité, oui. Mais également des pratiques qui ne sont pas conformes aux politiques de l'entreprise.
Arsène.
Par exemple, oui.
Oui, Arsène, on n'a plus beaucoup de temps. On va bientôt clôturer cet entretien. Alors, vous avez dit que pour faciliter l'accès à Internet, on va résumer. Il faut commencer par assainir le climat des affaires, permettre aux investisseurs de venir investir dans ces secteurs, encourager ceux qui ont des entreprises sur Internet, et l'État devrait également prendre l'engagement de ne plus couper l'Internet. C'est cela.
Exactement. Peut-être juste pour finir, l'accès dans des milieux reculés, comme l'auditeur l'a dit, tout ça c'est encore une question d'investisseurs. Si les investisseurs sont nombreux dans notre pays et si la question sécuritaire sont résolues, tous les coins et les recoins de l'RDC devraient normalement être connectés à Internet.
Voilà, et puis il y a aussi la fibre optique qu'il faut établir. Merci Arsène Tungali, je rappelle que vous êtes expert dans les questions de gouvernance internationale d'Internet. Vous intervenez depuis la ville de Goma, les studios des radios Kapi de Goma, au Nord Kivu. Merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup jeudi, merci à tous les auditeurs et merci à Radio Kapi. Au revoir.
Bien, au revoir.
Au Kapi Service.
Au Kapi, Radio Kapi.
Le conseil du jour.
Les astuces pour aider les enfants à réviser leurs leçons. Bonjour Marcel.
Bonjour Jody. Daniel Keshama.
Comment le faire?
Voilà, il faut d'abord prendre l'habitude de faire le point sur la matière enseignée avec votre enfant une fois par jour. Soutient les éducateurs. Voyez ce qu'il a fait en classe. Consultez ses notes pour l'aider à améliorer sa façon de travailler.
Et s'il a un mauvais résultat lors d'un devoir en classe?
Les experts conseillent de contrôler quelques jours plus tard s'il a bien assimilé la correction. Lorsque votre enfant aborde un exercice difficile et vous demande de l'aider, revoyez avec lui la leçon correspondante, et s'il n'a pas compris certains points du chapitre, tâchez de le reformuler différemment, puis laissez-le faire son exercice seul. Il devrait normalement le faire plus facilement après cet exercice.
Et quelle attitude adopter si nous voulons réciter une leçon avec un enfant?
Ne l'encouragez pas à réciter la matière par cœur, sauf bien sûr s'il s'agit d'un exposé ou d'une formule de maths, affirment les éducateurs. Pour les leçons d'histoire, des géographies, des philosophies, posez-lui plutôt des questions précises et laissez-le développer avec ses propres mots. Un cours de philosophie peut très bien ouvrir sur un débat intéressant permettant aussi à votre enfant de s'exprimer.
Mais cela sera difficile si nous sommes stressés ou fatigués après une journée de travail.
Ah oui, je dis, il faut d'abord faire le vide avant de vous occuper de votre enfant pour ne pas vous énerver davantage ou reporter l'attention de la journée sur lui, ce qui rendrait cette séance de révision éprouvante pour vous et pour votre enfant. Mais si vraiment vous ne vous sentez pas au point, confiez cette tâche à quelqu'un d'autre.
Merci Marcel pour ces astuces et conseils pratiques. À la prochaine.
Merci Jody.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à l'émission Au Kapi Service de ce jour. Merci de nous avoir suivis partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Mimi Kindou à la mise en onde, Marcel Gombo a assuré la coordination et la réalisation au micro jeudi Daniel Keshama sous la supervision de Tina Salama. À la prochaine.